Les Cafés Recherche, un podcast de Sciences Po Bordeaux. Anna Nera est maîtresse de conférences en droit public à Sciences Po Bordeaux, également chercheuse au centre Émile Durkheim. Elle est spécialisée en droit administratif. Ses recherches s'inscrivent dans plusieurs domaines qui en relèvent. La circulation du droit administratif et de sa pensée juridique dans une approche comparative, mais également historique, les évolutions du droit de la fonction publique et, enfin, les conséquences de la politique de contrôle de l'immigration sur les droits des étrangers et en particulier des mineurs non accompagnés.
Quelques rappels pour vous dire d'où vient ce projet de loi qui avait été annoncé, donc porté par Gérald Darmanin notamment, qui avait été annoncé dès l'été 2022 et présenté initialement comme un projet équilibré, c'est comme ça qu'on en avait fait la promotion, un projet équilibré entre d'une part la volonté, l'objectif en particulier de renforcer l'efficacité des mesures d'éloignement des étrangers délinquants, des étrangers en situation irrégulière. C'était un des objectifs mis en avant. Et puis, de l'autre côté, pour rééquilibrer, une proposition de création d'un nouveau titre de séjour, métier en tension, qui permettrait de régulariser de manière plus automatique les étrangers en situation irrégulière qui répondraient à cette condition-là. Ça avait été un résumé derrière le très manichéen, voire un peu infantilisant, soyons méchants avec les méchants et gentils avec les gentils. Mais donc, on en avait retenu ça à ce moment-là. Vous savez, il y a eu des crispations assez fortes ensuite autour de l'adoption de ce projet de loi. Le contexte du drame d'Arras s'est ajouté effectivement aux épisodes de son adoption. Et finalement, le Sénat, on sait aussi qu'il a considérablement durci le texte à l'issue de la première lecture. Donc je reviens pas sur tout le processus qui s'est passé à ce moment-là. Ça intéresse beaucoup les constitutionnalistes, mais je laisserai éventuellement le soin aux spécialistes d'intervenir. Mais c'est comme l'a dit Jean-Philippe, ça a été d'emblée un projet très critiqué. Pour une bonne raison déjà, parce que en fait, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur y compris ont tout de suite reconnu assez facilement que le texte était vraisemblablement porteur de dispositions inconstitutionnelles, de dispositions inconventionnelles, notamment contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c'était pas très grave puisque finalement, on nous a dit que le politique, c'était pas être juriste avant les juristes et qu'on pouvait se défausser sur le Conseil constitutionnel pour avoir cette responsabilité d'épurer le texte de ses vices les plus importants. Conseil constitutionnel qui est pas ravi de la balle qui lui a été renvoyée, puisque à l'occasion, je ne sais pas si vous avez vu, de la cérémonie des vœux où il y avait le président de la République, le président du Conseil constitutionnel a quand même tenu à rappeler que le Conseil constitutionnel n'était pas une chambre d'écho des tendances de l'opinion publique et qu'il n'était pas non plus une chambre d'appel des choix du Parlement qui seraient pas pleinement assumés. Et donc, il a dit que son rôle, c'était bien d'être juge de la constitutionnalité de la loi et qui regrettait qu'on n'ait peut-être pas encore très bien intégré, en tout cas que certains ne l'aient pas intégré. Donc, petit camouflé à peine voilé pour le coup de la part de Laurent Fabius à l'égard du président de la République. Alors, j'en viens à l'analyse plus précisément, que dire de ce texte, des mesures qui ont été adoptées, ce que ça change. Alors, il s'agit d'un texte qui touche vraiment tous les pans du droit des étrangers, c'est-à-dire l'entrée, le séjour, l'éloignement. C'est aussi les conditions d'acquisition, les modes d'acquisition de la nationalité. C'est le contentieux de l'asile. C'est évidemment et surtout les droits et libertés des étrangers. Et donc, je ne peux même pas là, dans le temps qui m'est imparti, vous faire la liste de toutes les mesures qui ont été prises. Le texte fait 90 pages, hein, donc c'est vaste. Mais je peux revenir sur les principales et sur les grandes tendances. Donc, s'agissant par exemple de la maîtrise des voies d'accès au séjour, il y a comme première mesure assez symbolique l'instauration d'un débat parlementaire annuel qui viserait à déterminer des quotas sur l'immigration par catégorie de titres de séjour. Première chose. C'est important parce que c'est une des premières mesures du texte et ça permet de comprendre aussi les mesures qui suivent. Donc dans la lignée, dans le prolongement, on voit aussi le durcissement des conditions d'accès à certains titres de séjour. Là, je peux citer quelques exemples. Vous avez entendu parler peut-être du durcissement du regroupement familial. On a relevé conditions d'âge, conditions de résidence, par exemple, du côté de celui qui demande le rapprochement. Et du côté de celui qui va en bénéficier, on a ajouté comme condition, par exemple, la connaissance minimale de la langue française pour pouvoir s'exprimer, pour faire valoir des besoins évidents. Dans le même ordre d'idées, pour le séjour étranger malade, on a une nouvelle condition bien plus stricte que celle qui existait auparavant, qui est l'absence d'existence, donc d'un traitement approprié dans le pays d'origine. Ce qui nie complètement, pour le coup, la problématique de l'efficacité de l'accès à ce traitement. C'est en fait le rétablissement d'une mesure qui a déjà existé pour le coup. On a vu aussi, et ça vous en avez peut-être encore plus entendu parler, notamment les étudiants, le durcissement du contrôle des étudiants internationaux. Et là, on sait, vous avez peut-être entendu, cette fameuse caution que les étudiants internationaux devront verser lors de la demande de leur premier titre de séjour pour raison d'études. C'est aussi pour ceux qui sont titulaires d'une carte pluriannuelle, et j'insiste sur pluriannuelle, la nécessité de prouver le sérieux de leurs études annuellement, ce qui fait perdre un peu de sens pour le coup au caractère pluriannuel de ces cartes. Je pourrais continuer sur les titres de séjour, mais je m'arrête là parce que je préfère me concentrer sur d'autres aspects. S'agissant de l'aspect éloignement, on a rétabli le délit de séjour irrégulier. On a aussi facilité l'expulsion et plus généralement aussi la délivrance d'obligations de quitter le territoire français à l'encontre de catégories d'étrangers qui jusque-là étaient protégés, par exemple parce qu'ils avaient une attache particulière, un lien familial ou personnel, parce qu'ils étaient résidents de longue durée. Donc des personnes qui normalement n'étaient pas intégralement protégés, qui bien sûr pouvaient être par exemple expulsés pour des raisons de menaces graves à l'ordre public. Mais là, on a facilité ces procédures d'éloignement. S'agissant des volets des droits qui sont liés au séjour, vous avez peut-être entendu parler des droits à la protection sociale, pour le coup, avec ces délais de carence qui ont été instaurés pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de prestations sociales, allocations familiales par exemple, qui sont désormais conditionnées à une résidence régulière de 5 ans ou bien à 30 mois d'activité professionnelle. Donc des conditions strictes pour pouvoir bénéficier de droits sociaux. Il y a un volet nationalité, il y a un volet contentieux de l'asile, un peu plus technique peut-être que je vous épargne. Je voudrais monter un peu en généralité, avoir une lecture plus globale. On a entendu que c'était un des textes les plus régressifs de la Ve République. On y voit une rupture considérable. Je voudrais rebondir un peu sur ça. C'est en grande partie vrai, mais on peut introduire quand même quelques nuances sur cette idée de rupture, pour le coup. C'est en grande partie vrai quand on voit l'ampleur, aussi bien en étendue qu'en profondeur, des mesures restrictives, effectivement, de droit. Ça, c'est vrai. Mais faut bien se souvenir que le droit des étrangers, en principe, c'est un équilibre, une conciliation entre, d'un côté, des exigences, des préoccupations d'ordre public, c'est-à-dire une dimension sécuritaire, policière, qui vise à contrôler les flux migratoires et qui autorise à contrôler l'entrée, le séjour et éventuellement à prononcer des mesures d'éloignement. Mais de l'autre côté, l'autre versant, c'est l'accueil de ces étrangers et le respect de leurs droits et libertés en tant que personnes humaines, pour le coup. La tendance, depuis un moment déjà, c'est que les préoccupations d'ordre public prennent le pas, pour le coup, sur le respect des droits et libertés. C'est la logique sécuritaire qui l'emporte, et ça, c'est une tendance générale qu'on connaît depuis longtemps. Mais en même temps, c'est un processus un peu erratique, pour le coup. C'est fait d'aller-retour. Il y a des périodes de régression, il y en a qui s'ancrent dans le temps, mais il y a aussi, parfois, on revient, il y a des trêves, par exemple, au moment de l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, sous la présidence de François Hollande, on a vu des allers-retours, effectivement, en matière de droits des étrangers. Ça, c'est simplement pour réinscrire un peu dans l'histoire ce processus-là. On pourrait citer la loi Pasqua de 1993, qui était déjà un sacré virage, pour le coup, mais qui déjà avait prévu ce conditionnement des aides sociales à une durée de résidence régulière en France, par exemple. Donc la loi actuelle, elle s'inscrit dans ce prolongement, elle accentue, elle étend ces hypothèses qui existaient déjà. Je pourrais même aller plus loin, remonter plus loin dans le temps pour être vraiment déprimante jusqu'au bout, pour le coup. C'est possible de faire un parallèle un peu déprimant avec le dernier tiers du 19e siècle, parce que c'est déjà en 1893 qu'on avait conditionné aussi à une durée de résidence l'accès à des prestations sociales. C'est aussi les mesures protectionnistes de l'emploi des ouvriers français que l'on voit à ce moment-là. Donc, ça s'inscrit dans un temps vraiment long. Deuxième tendance, c'est que ces mesures, elles traduisent une logique de suspicion généralisée que l'on connaît aussi depuis déjà un moment. Alors, c'est la figure de l'étranger fraudeur, par exemple, celui qui s'adonne à des manœuvres dilatoires en invoquant certaines qualités pour pouvoir bénéficier du séjour, qui utilise les failles d'une législation qui est présentée comme trop généreuse. Et c'est ensuite le fameux mythe de l'appel d'air qui arrive en général juste après. Je prends quelques exemples. Dans le texte actuel, c'est très certainement ce qui explique le durcissement du contrôle des étudiants internationaux, avec cette obligation, encore une fois, de versement d'une caution. C'est cette idée que, normalement, les étudiants, et ça, on a eu tendance peut-être à l'oublier, internationaux, ils sont pas dans un parcours migratoire, en réalité, ils sont en mobilité pour des raisons d'études, mais il y a cette suspicion, là encore, qu'ils utilisent cette voie, ce titre de séjour de mobilité, pour pouvoir ensuite s'installer durablement. Donc cette caution, elle leur sera rendue s'ils ont rempli l'engagement et qu'ils repartent ensuite dans leur pays d'origine ou s'ils obtiennent un autre titre de séjour sur un autre motif, par exemple. Mais elle sera conservée si jamais ils refusent de se soumettre à une mesure d'éloignement. Et pour l'instant, on attend les précisions par décret, mais on imagine que la somme de cette caution correspondra à peu près, le montant correspondra à peu près à un billet de retour vers le pays d'origine. C'est aussi ce qui explique le contrôle aussi de du sérieux des études, de la même façon. Suspicion à l'égard de ces étudiants internationaux. C'est la même chose pour l'étranger malade que l'on soupçonne de venir pour des raisons de complaisance. On a beaucoup entendu, c'était il y a une dizaine d'années, mais l'étranger qui vient utiliser les aides sociales pour bénéficier d'une cure thermale ou de la chirurgie esthétique, par exemple. Donc, on est exactement dans cette même logique. C'est aussi la figure de l'étranger dangereux, enfin. Et là, vous voyez un certain nombre de mesures aussi qui ont été prises et qui illustrent cette crainte, l'éloignement facilité des étrangers jusque-là protégés, l'éloignement aussi possible et le retrait d'un titre de séjour pour ceux qui ne respectent pas l'engagement républicain et les principes de la République. Et là, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, je suis assez d'accord avec ça, pour le coup. Mais la liberté personnelle, la liberté d'expression, mais c'est aussi la devise et les symboles de la République. Et c'est aussi le respect des règles du service public et le vivre ensemble. Mais on voit aussi qu'elle marge de manœuvre, ça laisse pour le coup aux autorités qui peuvent éventuellement retirer le titre de séjour.